Et nous avons l'honneur de recevoir le philosophe Bertrand Verjoli. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Bienvenue dans ce studio. Vous êtes de passage dans notre région. Vous donnez d'ailleurs une conférence ce soir 20h15 à la Maison Saint-Paul à Tarbes sur le thème de l'individu à la personne, une vision chrétienne de l'homme. Nous aurons l'occasion de reparler de ce sujet. On vous doit des dizaines d'ouvrages. Vous êtes un travailleur acharné, vous êtes aussi un enseignant. Et vous avez enseigné, je crois, à Sciences Po à une époque.
Exact.
Vous enseignez aujourd'hui auprès de jeunes qui sont dans des classes préparatoires, Cagnes, à Orléans.
Exact.
Lorsque je vous ai présenté tout à l'heure, il y a quelques minutes, comme théologien, vous m'avez dit pendant la courte pause, non, je ne suis pas théologien. Et pourtant, vous écrivez sur ces questions. Un de vos derniers livres, c'est « Prier une philosophie ».
Tout à fait. Mais je crois qu'il faut être honnête. Un théologien a fait des études de théologie et il a fait une thèse en théologie, ce que je n'ai pas fait. Un théologien est aussi le représentant patenté par l'Église pour exprimer la doctrine ou l'enseignement de l'Église, ce que je suis partiellement, puisque je fais de la théologie morale. Il me semble que je suis plutôt un philosophe qui philosophe avec la théologie dans la grande tradition métaphysique qui va de Parménide à Lévinas, où on l'oublie trop souvent, la philosophie n'est pas simplement un matérialisme qui réfléchit, mais c'est un matérialisme inspiré qui montre la relation qu'il y a entre Dieu, source ineffable de toute chose, et puis notre réalité humaine.
Et notre réalité humaine, Bertrand Verjoli, elle est percutée ces temps-ci par beaucoup de souffrances, de difficultés, de changements, de révolutions, oserait-on dire. On aura l'occasion d'en reparler. D'ailleurs, vous-même, vous avez écrit sur ces questions de souffrance extrême. Et auparavant, tout de même, nous sommes dans la Semaine Sainte, ce qu'on appelle chez les orthodoxes la grande semaine de Pâques.
Voilà.
Alors, il faut commencer par l'espérance.
Bien sûr.
Vous, qu'est-ce que vous nous diriez de cette lumière de Pâques dans ce monde compliqué, voire obscur ?
C'est la subversion la plus extraordinaire que nous pouvons avoir de la réalité. Lorsque nous voyons les choses avec des yeux humains, nous pensons que la vie va de la vie à la mort. Et donc, que la mort est le dernier mot de toute chose. Mais quand nous nous mettons à vivre spirituellement, c'est exactement l'inverse qui se passe. Nous allons de la mort à la vie. Et donc, le Christ, par sa vie, sa mort et sa résurrection, vient nous montrer que la vie ne va pas de la vie à la mort, elle va de la mort à la vie. Et à partir de là, la vie peut commencer. C'est-à-dire que la résurrection est la clé de toute chose. Si la vie va à la mort, pourquoi vivre et pourquoi se fatiguer? Puisque de toute façon, rien ne restera. Mais si la vie va de la mort à la vie, alors là, nous pouvons vivre et tout peut commencer. Et le Christ, par la résurrection, inscrit la vie dans le commencement absolu fondamental. Et c'est l'idée la plus extraordinaire qu'il y a. L'homme est fait pour aller dans la vie, il va aller dans la vie. Et le Christ nous montre par sa mort comment, à un moment, la mort n'est pas le dernier mot, que ce soit pour les hommes ou que ce soit pour Dieu. Autrement dit, la résurrection, la fête de Pâques, est l'événement le plus extraordinaire qui soit. Je pense qu'il y a la création du monde, il y a l'apparition de l'homme et puis il y a la résurrection. Alors là, nous sommes devant le destin inouï de l'humanité et les choses se révèlent petit à petit.
Dans ce monde actuellement, on voit sous nos yeux cohabiter ce qu'il y a de plus beau, de plus extraordinaire comme engagement de la part des personnes et puis de plus sombre. Au point que certains se disent « mais cette vie dont vous nous parlez, après laquelle il y a la résurrection, il y a une autre vie, est-ce qu'elle vaut vraiment le coup d'être vécue ?» Il y a de la désespérance aussi qui s'oppose fortement à ce que vous venez de nous dire.
Quand nous prenons les différents événements qui sont arrivés dernièrement à Trèbes,
oui,
et puis ensuite à Paris, nous sommes effarés par la méchanceté humaine, par la cruauté. Mais je remarque qu'au milieu de la nuit, de l'enfer, on voit tout d'un coup la lumière. Ce lieutenant-colonel, qui est maintenant colonel, hein, et qui a donné sa vie pour se substituer à des otages, il, c'est pas simplement un héros, c'est un saint. Tout d'un coup, c'est la lumière qui vient au milieu des ténèbres et quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez ? Et puis, je remarque une chose, la dignité de la famille de cette vieille dame qui a été atrocement tuée et brûlée est extraordinaire. Et qu'à un moment, rien que la parole de son fils en disant « Tout être humain est le bienvenu pour la marche silencieuse ». Donc, il y a toujours des signes divins qui font qu'au milieu de l'enfer, on voit encore la lumière. Et je rajoutais une chose, le monde fait parfois des choses terribles, raison de plus pour vivre, raison de plus pour y aller. On ne va pas se laisser démonter parce que des gens veulent nous démonter. Je crois qu'ils veulent nous désespérer, ils veulent qu'on se dispute tous, qu'on se divise tous, qu'on se haïsse tous. Eh bien, nous n'allons pas nous haïr, nous allons vivre, et nous allons être plus forts que les forces de mort qui viennent, à un moment, nous tenter, et nous tenter par le désespoir.
Le mal, ces forces de mort, c'est la division. C'est l'homme qui s'entretue.
Le mal est la malignité. C'est-à-dire non seulement des choses terribles qui se font, de l'ordre de la méchanceté et de la cruauté, mais les raisonnements pervers qui nous feraient croire que le mal n'est pas le mal, c'est un bien. Et donc, c'est là où nous devons être extrêmement vigilants, en disant il faut lutter contre les forces de mort qu'il y a en tout homme, y compris en nous, mais aussi contre la malignité qui fait que le mal n'est plus le mal. Donc ça, ça demande... Alors, quand on le fait, on fait un véritable travail spirituel, nous ressuscitons.
Vous êtes auprès de jeunes, vous transmettez aux jeunes.
Oui.
Vous pouvez prendre la parole comme vous venez de le faire à notre micro, auprès
toujours,
des jeunes.
Toujours, oui.
Avec
cette conviction, il s'avère que, bien évidemment, je peux dire des choses dans un environnement spirituel, religieux, théologique et à la foi, que je ne peux pas dire dans un monde laïque. Donc je me retiens et je reste dans le cadre de la philosophie. Mais ça ne m'empêche pas d'être totalement fidèle à ma position spirituelle fondamentale. Je leur dis, la philosophie, c'est la métaphysique, et la métaphysique, nous allons en parler. Et donc je suis métaphysicien. Et je dis, il y a la dimension de l'extraordinaire de l'existence. Par exemple, je peux parler de choses divines dans un langage accessible par tous, si par exemple, je parle de la présence, et en même temps de l'expérience de la présence. Eh bien là, nous sommes dans des rapports spirituels, ils aiment beaucoup. Avant chaque cours, je propose toujours à mes élèves de se recueillir et de prendre 5 profondes respirations à partir du ventre en fermant les yeux. Eh bien, figurez-vous que quand j'oublie de le faire, c'est eux qui me demandent de faire ce moment de recueillement, et je leur dis « ça vous plaît », ils adorent. Donc ils adorent, ils ont été très marqués par le fait de parler de la présence, et par le fait de parler à un moment du silence et du recueillement. Et vous voyez que nous pouvons introduire, sans gêner personne, sans faire un prosélytisme de bas étage, eh bien, une dimension spirituelle. Et donc,
En vous écoutant, j'ai l'impression que vous ne parlez pas de la même jeunesse que celle que nous voyons dans les storytelling d'actualité, dans les chaînes Tout Info, qui peut être désespérante, dont on se dit « elle n'a plus de repères, elle fait n'importe quoi, cette jeunesse ». Et vous, vous nous parlez d'une jeunesse qui est en capacité de recevoir cet émerveillement qui vous habite.
Alors, il s'avère que la population que j'ai dans les classes préparatoires aux grandes écoles est exceptionnelle. Mes élèves sont magnifiques et il faut remercier la France de pouvoir permettre des filières d'excellence avec vraiment des gens excellents. Je crois que les jeunes sont coupés en deux. Il y en a qui sont excellents et vraiment réconfortants. Puis il y a des jeunes en difficulté, survoltés, surexcités par les médias. Je me souviens d'un de mes amis profs de philo qui était à la fois prof de philo à Louis-le-Grand et dans le 9-3, donc du côté de Saint-Denis. Et il disait, je fais la même chose avec mes élèves dans le 9-3 que je fais à Louis-le-Grand, simplement ça prend plus de temps. Je pense que les jeunes, si on sait leur parler, si on vient vers eux, il y en a qui peuvent totalement se retourner. Alors hier soir, il y a quelque chose de très drôle à propos des jeunes. J'ai un très bon ami qui est prof de géographie et d'histoire dans le 9-3. Et il me dit, si je veux avoir la paix dans ma classe, je parle de Dieu. Alors, pourquoi ? Parce qu'ils sont tous musulmans et ils adorent qu'on parle de Dieu. Et alors, on arrive à des retournements extraordinaires. Donc, c'était extrêmement amusant. C'est-à-dire qu'il y a avec les jeunes aujourd'hui des expériences marquées, je dirais, par l'Esprit Saint, où si on est dans la foi et la confiance, d'une manière inattendue, des miracles se produisent de l'intérieur du lycée et des cours.
Je rappelle que nous sommes en compagnie du philosophe Bertrand Vergely et qui, de passage dans notre région, nous fait l'honneur de venir dans ce studio, passer quelques minutes.
C'est vous qui me faites l'honneur de m'inviter.
Et vous nous éclairez. Alors, nous sommes dans un monde assez individualiste où chacun, il y a un côté œil pour œil, dent pour dent aussi,
oui.
Où la notion de bien commun, elle se perd, elle est ensablée parfois.
Oui.
Vous faites une conférence, en passant justement chez nous, sur le thème de l'individu à la personne.
Oui.
Individu, ça nous dit individualisme, ça nous dit je vais me défendre, je vais défendre mes intérêts personnels, un peu égoïste. La personne, là vous nous emmenez dans un autre univers.
Alors, je ne dirais pas du mal simplement de l'individu, parce que le problème est complexe. Tout est bon, à partir du moment où on sait bien le prendre. Et donc si nous prenons l'individu chez Leibniz, qui est un penseur du XVIIe siècle, qui a été le théoricien de l'individu, c'est quelque chose de tout à fait positif. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est quand, à un moment, on passe de l'individu à ce qu'on appelle l'individualisme possessif. Alors là, on rentre dans une logique politique qui est terrible. C'est le mythe selon lequel l'égoïsme est bénéfique. Donc, je dirais que aujourd'hui, par exemple, c'est la théorie de l'égoïsme rationnel qui est la grande théorie qui inspire les petits génies de la Silicon Valley. Hein. Et c'est quelque chose qui a été le cancer de la pensée politique en Occident depuis le XVIIe siècle. On a inventé un mythe comme quoi l'égoïsme était positif. Et il a fallu, il faut dire, un auteur non chrétien, Marx, pour que celui-ci rétablisse la vérité et dise « faites très attention, l'égoïsme n'est pas rationnel et il fait énormément de dégâts ». Donc, l'individu est une chose, il y a le mythe de l'individu, et l'individu devient à lui-même sa propre providence. Et là, on est dans une déviation théologique, on est devant une hérésie. C'est-à-dire, on remplace la providence divine par la théorie de l'égoïsme rationnel qui ferait croire qu'au fond, on n'a pas besoin de Dieu parce que l'égoïsme supplée à tout. Et puisqu'on parle d'égoïsme rationnel, nous sommes dans quelque chose qui est anti-résurrection. C'est ce que dit Hobbes. Qu'est-ce qui permet à l'humanité de se transformer, de s'assagir ? La peur de la mort. Bon. Les gens sont égoïstes, ils se battent, ils ont peur de la mort quand ils se battent. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Retournement, et tout d'un coup, ils rentrent en société. Ce schéma nous dévore. Et à la personne, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, l'homme est porteur de toutes les semences de la vie divine, et c'est parce qu'il est inspiré par la grâce divine qu'à un moment, il se transforme. Et ce n'est pas du tout par la pensée magique dans laquelle on est dans la magie de l'égoïsme. Donc, quel est le gros problème ? Nous sommes dans des types de pensées qui sont des pensées magiques, et il s'agit d'aller dans des pensées libératrices et profondes. Et ce que je trouve magnifique dans la vision de la personne, c'est que l'homme est porteur d'une vocation divine, et quand il vit cette vocation divine qui est en lui, elle vient à lui, elle l'inspire. Et là, on assiste à des retournements dans le, de la vie humaine qui sont autrement profonds et intéressants que le retournement provoqué par l'égoïsme rationnel.
Les conséquences de cet égoïsme rationnel dont vous parlez, c'est quoi ? C'est le transhumanisme ? C'est le très concret pour
Alors,
nous ?
Exactement. C'est-à-dire, on a des yeux, puisqu'on parle de la résurrection, toute la logique du transhumanisme est de dire nous allons être la troisième religion de l'humanité après le post-humanisme et après, pardon, après le polythéisme et après le monothéisme arrive la religion de l'homme-dieu. Les chrétiens ne sont pas dans la religion de l'homme-dieu mais du dieu fait homme. C'est pas du tout la même chose. Et ils ont dit nous allons faire une hybridation entre l'homme et la machine et l'homme va ne plus mourir. Donc on va fabriquer la résurrection sans le Christ. Et on va fabriquer quoi ? Un enfer. Sous deux raisons. Est-ce que l'homme sera ressuscité ? Parce qu'il aura un corps perpétuel. Nous apercevons, les sages de l'Antiquité étaient très sages, en disant, l'homme peut devenir immortel, mais il faut qu'il se soit transformé moralement. Il ne peut pas rentrer dans un état d'impureté totale à l'intérieur de la vie éternelle, ou alors, ça va être la logique de la nuée des morts vivants, vous allez avoir des monstres qu'on n'arrivera pas à tuer parce qu'ils auront des corps inoxydables et ils vivront comme de véritables vampires ou des véritables monstres. Donc nous sommes aujourd'hui devant quelque chose qui est tout à fait étonnant. La résurrection que nous ne connaissons pas par le cœur, par la rencontre avec le Christ, eh bien, on essaye de la faire par une machine, une hybridation entre l'homme et la machine.
Vous nous emmenez très loin par ces réflexions. Merci. Alors, vous intervenez auprès des jeunes pour les terminales du lycée Jeanne d'Arc à Tarbes, oui, cet après-midi à 15h.
Oui.
Sur ce thème, à peu près
vous leur... Écoutez, je crois que je vais être en dialogue avec les jeunes pour savoir de quoi ils ont besoin. Je pourrais leur parler de ce dont je vous ai parlé. J'aurais peur que, pour certains, ce soit un peu en déphasage par rapport à eux. Alors, je peux parfaitement parler de cette affaire. Mais je crois qu'il faut dialoguer avec eux. Et la question que je leur poserai, c'est quelles sont les questions que vous vous posez et de quoi avez-vous besoin ? En revanche, ce soir, je reviendrai sur la question de l'homme aujourd'hui et toute cette histoire d'égoïsme rationnel et le type d'homme qui s'est mis en place dans notre monde et qui nous barre totalement la relation à l'Esprit-Saint. Vous savez, Peggy disait « On ne comprend rien au monde moderne si on ne voit pas que tout est fait contre la vie intérieure. » C'était Bernanos qui disait ça. On ne comprend rien au monde moderne si on ne voit pas que tout est fait contre la vie intérieure. Malheureusement, sans céder à la paranoïa, je m'aperçois que nous sommes matin, midi et soir dans un monde qui se veut totalement anti-spirituel. Mais si on sait bien le faire, c'est des mines au niveau théologique. Quand on comprend le type d'homme, c'est-à-dire on récite le Christ à l'envers. Donc quelque part, en voyant comment le Christ est à l'envers, on est en relation avec le Christ.
Bon, c'est ce soir, 20h15, la conférence que vous donnez à la Maison Saint-Paul, c'est au 51 rue de Trénès à Tarbes. Merci d'être venu jusqu'à nous.
Merci de m'avoir accueilli. Que et bonne Pâques à tous nos auditeurs.
Oui, restons dans la lumière de Pâques. Parmi les ouvrages que l'on vous doit, vous m'avez signalé « Obscure lumière ». La révolution interdite, c'est le dernier qui est paru, mais auparavant il y avait Prier une philosophie, et puis également Retour à l'émerveillement.
Hein. Voilà.
Et on vous en doit d'autres encore. Tapez sur internet, pour ceux qui ne connaissent pas, Bertrand Vergely avec un Y à la fin.
Voilà.
Là on va trouver toute votre bibliographie, et elle est conséquente.
Merci beaucoup.
Merci à vous et merci.
Belle et heureuse fête de la résurrection.
Merci au Père Pascal Scordino d'avoir permis cette rencontre.